Bonjour, nous sommes le lundi 23 janvier, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, stylé.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est l'émission qui fait dialoguer demain, aujourd'hui et hier. Pour cela, deux invités partageant la même passion, le même métier, le même engagement. L'un toujours jeune, l'autre encore jeune, comparent leurs expériences. Aujourd'hui, nos invités pratiquent le CEO comme d'autres font de la patinette dans le métro. Et les plus âgés comprendront, ils sont comme le professeur Rollin, ils ont toujours quelque chose à dire. Nos invités sont blogueurs.
La relève, tous les lundis à 14h. Sur Radio Campus Paris.
Irénée Regnault, oui, c'est pas facile à dire. Bonjour, vous êtes fan de comics français et belges, si j'en crois votre compte Twitter, mais vous êtes aussi blogueur pour Mais où va le web, et surtout vous êtes fondateur du collectif Le Mouton Numérique. Je sens que cette émission va être longue. Bonjour Irénée.
Bonjour.
Nicolas Van Bremerge, bonjour. Vous dirigez l'agence Spin Tank, mais sous le nom de Versac, vous avez longtemps été un blogueur parmi les plus influents. Et le jour où on fera une histoire du web français, nul doute que vous y figurerez en bonne place. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Irénée, vous souvenez-vous du premier jour où vous avez lu un blog et est-ce que c'était un Skyblog ?
Non, il est trop jeune pour ça.
Non, je ne suis pas trop jeune pour ça en fait. Non, je ne m'en souviens pas vraiment du jour où j'ai lu un premier blog, à vrai dire. Ma première expérience du net, ça a été des sites qui s'appelaient chatch.com et des sortes de choses comme ça où on parlait avec des inconnus, c'était en 1999. Mais à l'époque, les blogs, ce n'était pas vraiment encore ça, de mon point de vue.
Ah, mais vous n'êtes pas si jeune en fait.
On s'est fait avoir, on s'est fait avoir.
J'ai 52 ans. Non, je rigole, j'ai 29 ans.
Alors, blague à part, est-ce que malgré tout, vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit que vous alliez avoir un blog et que vous vouliez en avoir un ?
En fait, ça a traîné pendant pas mal de temps. Il y a eu, disons, 3, 4, 5, 5 années où je me disais, il faut vraiment que je fasse un truc. Et puis, je me sentais ni la légitimité, ni la maturité pour le faire. Et arrivé dans le monde professionnel avec suffisamment de background et de choses à dire, c'est venu un petit peu tout seul, comme ça, du jour au lendemain. J'ai ouvert un truc en ligne. Je me suis un peu renseigné sur comment faire pour écrire sur autre chose que Facebook, parce qu'on en avait quand même un petit peu marre. Et puis, voilà, j'ai écrit un article comme ça.
Parce que Snapchat, c'est moins bien pour écrire.
Ça n'existait pas encore à l'époque.
Et donc, comme ça, du jour au lendemain, vous vous mettez à écrire. Il n'y a pas de déclencheur particulier, un grand sujet, un grand moment d'actualité où vous dites, il faut que je prenne la parole, j'ai quelque chose à dire.
Non, par contre, il y a un espèce d'énervement latent du fait que ça traînait un petit peu à l'intérieur de moi. J'avais des choses à dire. Je pense que chez tous les blogueurs, il y a un petit peu de... voire beaucoup même d'ego ou de personnalité qui a envie à un moment donné de se mettre sur la place publique. Hein, pourquoi pas, c'est comme ça, il n'y a pas de raison. Après tout, on a le droit, on est dans des pays où on a le droit de faire ça, donc profitons-en. Et puis, j'avais la sensation que dans le domaine du numérique, où déjà je naviguais depuis pas mal d'années, il y avait une espèce d'illumination, de positivité qui était trop belle pour être honnête. Moi, j'avais envie de dire des choses qui allaient peut-être un petit peu à revers. J'étais pas le seul, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé bien évidemment avant moi. Je n'ai fait que les reprendre et puis au fur et à mesure j'ai un peu taillé, disons, mes propres armes dans le domaine.
Et toi Nicolas, en fait, t'as pas eu de problème de légitimité? Je te tutoie parce qu'on se connaît, donc autant...
Très bien, de légitimité, bah si, tout le temps, le sentiment de l'usurpateur permanent, oui, c'est presque inhérent en même temps d'un certain point de vue au blogueur et en même... Voilà, enfin, moi j'ai une société où on parlait avec des titres. Dans le numérique, on parle. Il n'y a pas besoin de titres, etc. Donc la légitimité, oui, c'est légitimité de la foule, etc. Elle est quand même particulière. Hein. On a de l'audience, les gens vous disent que vous êtes influent, vous êtes lu, mais vous ne savez pas trop pourquoi. C'est des sujets qui peuvent questionner. Oui.
Et quelle était votre démarche au départ ?
Alors moi, ma démarche, moi je suis rentré dans les blogs comme une autre étape. J'ai commencé par les newsgroups, par les BBS dans les années 90, par les newsgroups.
BBS, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, vous savez ?
Je me souviens plus exactement, mais c'est les bulletin boards.
Ça avait l'air sympa en tout cas.
Bulletin boards, je pense. C'est les ancêtres des forums et les newsgroups qui sont les ancêtres des forums, les fr. fr.soc.économie, fr.soc.politique, c'est des trucs qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, qui étaient les ancêtres des forums, c'est des endroits où par thématique on pouvait se regrouper. Donc moi j'étais sur fr.soc.économie en 96, 97, des choses comme ça, qui en fait, bon, c'était assez rigolo, il y avait des trolls qui parlaient d'économie et de politique déjà toute la journée. Moi je suis rentré dans les blogs en 2001-2002, quand la forme est un peu apparue sur des sujets politiques aux États-Unis, en étant commentateur de blogs politiques américains, dans les débats post-11 septembre, début de la guerre, pré-guerre en Irak. Notamment des blogs comme Atrios, qui est le premier blog, je pense, sur lequel j'ai posé un commentaire, qui est le seul blogueur, je pense, qui est rentré comme personnage de fiction dans la série The West Wing, voilà, où à un moment, le président candidat Bartlett rencontre un blogueur, et il y a son staff qui dit « Ouais, il faut rencontrer un blogueur, c'est important, etc. etc. » Et c'est le vrai Atrios qui joue son propre rôle, dans la série, etc. C'était assez amusant. On compare d'une époque, ça devait être en 2004 ou un truc comme ça.
Personne autour de cette table n'était né à part vous en 2004.
Voilà, oui, j'imagine bien. Oui. Voilà. Donc moi, je suis un peu un ancêtre. Voilà, et j'ai ouvert mon blog tout début 2003.
Et donc, à l'époque, vous choisissez la politique tout de suite ?
Non, de manière assez variée. Je m'exprime sur pas mal de choses, mais beaucoup autour de politique. Ouais. Assez rapidement, c'est rapidement les débats politiques, la guerre en Irak. Au début, c'est plutôt expérimental. Je commence à parler un peu de tout ce qui m'intéresse. Ça a toujours été un blog plutôt personnel à l'époque où je le tenais. Ça fait 8 ans que je ne le tiens plus. C'est plutôt personnel avec une dominante politique. Et j'étais connu comme un blogueur politique, mais je parlais aussi de design, de vin, de lecture plus ouverte, etc. Et ce n'était pas une chronique formatée, etc. C'était la variété d'un format qu'est le blog, c'est-à-dire non normé et un journal extime personnel.
Et finalement, en fait, des blogs sont apparus, en fait, c'est cette figure du pro-am, le professionnel amateur, qui donne une nouvelle légitimité et qui a permis à certains d'accéder à des médias comme experts, on peut penser par exemple à 2020 ou à d'autres, dont vous. Est-ce que maintenant, en fait, vous, par exemple, Irénée, dans votre pratique, il y a toujours cette légitimité du blogueur ou pas ? Est-ce que ça ne s'est pas un peu transféré vers le YouTuber ?
Vous voulez dire, est-ce qu'il y a un souci sur la légitimité du blogueur ? C'est quoi votre...
Ouais.
Je ne sais pas, je pense que ça dépend des blogueurs. Je pense qu'à partir du moment où on a un minimum de rigueur intellectuelle, les gens sauront que vous avez fait un travail sérieux. Tout dépend par qui on est jugé. Si on est blogueur mode, on attend... différentes choses d'un blogueur mode que d'un blogueur en cuisine ou c'est une question vaste après
Et pourquoi vous n'avez pas fait un YouTube ? Pourquoi vous n'êtes pas devenu YouTuber ? C'est plus moderne quand même.
Parce que je pense que je suis arrivé en fait un petit peu trop tard en fait. Moi j'ai commencé à bloguer bêtement 2013-2014, quelque chose comme ça. Le format est quand même arrivé un petit peu après. Après j'ai pas du tout cette fibre là de me mettre une caméra devant la tronche et de me filmer. C'est pas vraiment du tout mon délire et mon expertise passe par l'écrit et passe par la lecture. Moi, je blogue parce que j'écris et puis parce que je lis. Et comme on dit, qui écrit lit deux fois. Je tiens beaucoup à ce proverbe parce que bloguer, c'est pour les gens probablement comme nous autour de cette table, c'est justement cultiver cette espèce de curiosité permanente sur tout un tas de sujets. Alors le numérique, ça s'y prête évidemment super bien parce que c'est total, ça embrasse absolument toute la société, donc on peut parler de tout. On peut parler de philosophie, de politique, de culture, d'art, etc.
Le principe du blog, justement, c'est d'avoir plusieurs sujets, l'un comme l'autre. Vous auriez pas envisagé d'avoir un blog monomaniaque ?
Moi, j'ai un blog monomaniaque. Je ne parle que de numérique, a fortiori.
Le principe du blog, il n'est absolument pas normatif. Le principe, c'est que le web permet à des individus de s'exprimer. Il y en a parfois qui fabriquent des marques personnelles multi-thématiques et donc, au contraire, qui sont très spécialisées. Moi, j'aime toucher à tout, donc je touchais à tout avec des dominantes. Il y en a d'autres qui sont spécialistes. Je pense que l'outil n'est pas normatif. Les youtubeurs, prenez certains youtubeurs, et voilà, c'est des plateformes qui créent des youtubeurs, blogueurs, etc. Il y a des youtubeuses beauté spécialisées vraiment dans tel et tel sujet. Il y a des youtubeurs un peu polyvalents. Casey Neistat, essayez d'expliquer ce qu'est Casey Neistat, ce youtubeur américain qui expérimente plein de trucs, parle de plein de passions, de geekerie, de tech, de voyage, de machin. Enfin voilà, c'est avant tout une personne. Donc il y a bien ce mélange.
Ça fait deux fois que vous parlez des États-Unis. C'est comme pour tous les médias, tous les formats se créent là-bas ?
Non, non, pas du tout. Il y a plein d'inventions de formes, je pense, en France et en Asie, etc., etc. Ça, clairement, en revanche, il y a des standards de conversation qui sont nés sur des plateformes américaines, c'est sûr.
Mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de boucliériser l'élite, qui t'embauche pas, mais qui profite de ces villas. La, la, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascédiques et moi. De ratiboiser la culture pour te ramollir, toi qui taffes dur et te traîner à l'usine de Cholet sur des machines à licencier, mais moi. Ça les perdra de nous distraire, à vouloir tout repeindre en vert, à part l'Afrique. Pour ça la crise, c'est bien pratique. Je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste.
C'était le lyrique, peut-être même un peu trop, Cyril Mokayesh qui sent chanter « Je suis communiste » en 2011, juste avant la dernière présidentielle. Personne ne sait encore si une reprise « Je suis mélenchoniste » est prévue pour la prochaine fois.
Alors Nicolas, vous avez lu un peu ce que faisait Irénée. Et donc du coup, je vais vous poser la question à tous les deux en commençant par vous. Donc, mais où va le web ?
Vaste question. Le web, il est un peu en train de disparaître parce que le web, la création d'un commun de réseau et la mise en commun de manière assez libre d'informations et de liens entre les gens et les informations et les machines. Et grosso modo, ça s'est vachement privatisé sur des plateformes parce que de plus en plus, mais moi le premier, on contribuait à nourrir le web et ce commun de nos liens, de nos contributions, de nos textes, etc. Et ça fabriquait quelque chose ensemble qui créait des opportunités et que tout ça s'est privatisé et ça s'est descendu sur le mobile et dans des plateformes privées qui fait qu'il y a un peu cette perte. Donc moi je suis assez pessimiste sur la construction de cet outil qui générait des... du bazar intéressant qui était le web, effectivement.
C'est ce qui vous a fait arrêter en 2008?
Ah non, c'était bien avant ça. 2008, j'ai arrêté parce que ça faisait 5 ans ou 6 ans que tous les jours j'écrivais quelque chose, que j'avais envie de passer à autre chose et que j'étais pas à l'aise avec mon avatar numérique, mais ça c'est une longue histoire.
C'est quoi, il y avait un décalage entre la manière dont vous percevez et ce que
ouais,
vous étiez ?
Ouais, j'avais à l'époque entre 400 et 500 000 visiteurs par mois.
Combien de commentaires par jour donc ?
Ouais, des milliers, des 1000 commentaires par jour, quelque chose comme ça parfois, etc. C'était un peu trop pour un truc qui était un hobby. Et il y avait une sorte de truc qui s'était créé sur une image de blogueur influent, etc., qui, les gens ne comprenaient pas le projet, qui en fait était un projet personnel de hobby qui avait gonflé, quoi. Et donc j'avais envie de réconcilier ça et de surtout pas devenir prisonnier de cette économie médiatique un peu fausse où il fallait travailler la célébrité, etc. Et donc de prendre ça, de me dire, ben, je me débarrasse de ça pour essayer de créer autre chose. Et donc j'ai écrit un bouquin, j'ai transformé, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai travaillé sur d'autres formes de fécondité à partir de ça, et pour pas surtout devenir... voilà, on me proposait des chroniques partout, des machins, des trucs et des machins, et de devenir un YouTuber, quoi. Grosso modo, je voulais surtout pas devenir ça.
C'est quelque chose qui vous fait peur, Irénée ? Je vous vois acquiescer.
Me faire ça. Moi, j'ai pas ces problèmes de célébrité là. Du tout.
Pas encore.
Je sais pas. Alors, je sais pas si le web est mort. Par contre, je conçois parfaitement qu'on soit pas arrivé au même moment du web. Moi, j'ai commencé à bloguer. Les blogs étaient morts, en fait. Il y avait eu Facebook, Twitter entre temps. Et c'est pas du tout le même rapport qu'on a au lectorat. On est entré dans une économie de l'attention où c'est beaucoup plus dur d'avoir énormément de lecteurs. Enfin, à mon sens, on est beaucoup de blogueurs sur la toile, forcément. Je pense que le web n'est pas mort et les blogueurs sont là pour le dire, justement. Bloguer, c'est sortir des plateformes à travers des solutions libres, éventuellement. Ça, c'est un beau projet. Après, que le web disparaisse, moi, je pense qu'il, comme tu dis, il va disparaître d'une manière ou d'une autre, mais à travers des ramifications techniques qui sont tout autres. Il va aller dans les objets, il va être partout, en fait. Et en étant partout, il va disparaître. Et c'est un petit peu ça, le danger. Sur la privatisation du web, je peux que être d'accord, mais je passe ma vie à parler seulement de ce sujet, puisqu'il n'y a qu'un sujet, c'est celui-là, et que tous les sujets qui sont liés au web sont liés à l'essor des plateformes et à l'essor des géants du net par rapport à ce que font les gens et par rapport au commun qui eût existé peut-être un jour.
Finalement, ce qui vous relie quand même, c'est quand même une vision politique du web et de la société, en fait, et de son implication dans la société.
En fait, le web, c'est une excellente occasion, le numérique, disons. Enfin, le web, c'est une toute petite partie de ce qu'on appelle le numérique, qui inclut évidemment bien plus que le web. C'est une excellente occasion de penser les choses en termes de système, je dirais. Quand on est blogueur et quand on aborde ces sujets-là avec le numérique, on peut parler de tout, en fait. On n'est pas cantonné dans un espace, dans une discipline. A fortiori, dans ces cas-là, on fait forcément de la politique, pas forcément.
Le blogueur, il est forcément alternatif, il est forcément critique ?
Pas du tout. Blogueur et tout et n'importe quoi.
Ouais, tout autant que toute forme d'expression. Non, l'outil ne détermine pas. En revanche, oui, je pense qu'il y a eu une prime. Et pour exister, il faut trouver une forme de singularité, je pense, pour exister de manière durable. Après, comme dans tous les milieux de réseau, il y a aussi des gens qui ont des fonctions simplement de nœuds de réseau et de mondains et de connecteurs. Et donc, il y en a aussi beaucoup. Hein. Il y a plein de gens qui, dans ces fonctions-là, voilà, ne sont pas des alternatifs, mais au contraire des connecteurs. Mais pour exister en tant que singularité, en tant qu'individu dans ce monde-là, il faut quand même avoir quelque chose d'un peu propre.
Parce que finalement, c'est quand même... Tout ça, c'est une question d'estime et donc d'individu.
C'est que des individus qui se mettent en réseau par le biais de leur expression et de leur mise en scène, qui est souvent une mise en scène de soi. Hein, il faut devenir son propre média, ça veut dire se raconter. Même si on ne se raconte pas soi et qu'on tient un blog sur une thématique, c'est quand même soi, son média, etc. Donc il y a toujours une idée d'ego, effectivement, qui s'exprime quelque part. Ça n'est pas que du journal, ça n'est pas que de l'ego, mais il y a toujours une dimension individuelle assez forte.
Irénée, vous, aujourd'hui, vous écrivez tous les jours, vous contraignez à écrire tous les jours ?
J'essaye de lire tous les jours. Je lis tous les jours, en fait. Je ne peux pas écrire tous les jours, c'est impossible. Moi, j'ai un rythme de publication qui est depuis plusieurs années d'environ... 1, 2, 3 articles par semaine, je ne peux pas faire plus. J'ai de plus en plus des gens qui écrivent avec moi ou chez moi. J'ai pas vocation à être un blog collaboratif, hein. C'est quand même un espace qui m'est très personnel, hein. Comme dit Nicolas, il y a beaucoup de personnel dans cette affaire-là. Donc c'est pour ça que en termes de visite, on peut pas s'attendre. Il y a des gens qui écriront des 12 articles par jour avec des stratégies de référencement beaucoup plus abouties et qui pourront avoir beaucoup plus de visibilité, mais... Je vois pas l'intérêt, moi, d'écrire tous les jours. Je suis pas un commentateur. J'essaie d'avoir un minimum de fond. Je dis pas que les commentateurs n'ont pas de fond, mais je dis qu'il leur arrive de pas en avoir.
Nicolas ?
Bah moi, je suis en train de me remettre à l'écriture. J'ai publié mon premier blog. Alors, c'est un blog un peu plus professionnel qui s'appelle The Spin Notes, que j'ai ouvert la semaine dernière sur Medium, sur une plateforme, comme un vieux salaud vendu de la modernité du web. Mais j'ai la flemme de faire autre chose. Et je vais essayer de republier une fois par semaine. Voilà, j'ai tenu pendant 6 ou 7 ans un rythme d'écriture quotidien. Là, je suis patron d'une petite PME de 50 personnes, c'est un peu compliqué.
C'est quoi ? C'est comme les médias, il faut avoir une fréquence pour être opéré ?
Non, il faut avoir une fréquence pour ne pas perdre la routine. Il faut écrire régulièrement pour écrire. Écrire, c'est un travail de fond, c'est une habitude. Comme toute création, il faut fabriquer des routines et des contraintes. C'est juste ça.
Mieux qu'un poste de blog, ces chroniques éclairent les humains qui avancent dans le brouillard givrant. Et c'est vous, auditeurs de Radio Campus, qui en avez la primeur. C'est donc l'heure d'écouter notre prêtresse, j'en suis enrhumée, la chronique d'Abline.
C'est magnifique. Chers auditeurs, comme vous l'avez remarqué, nous parlons publication sur le web, Skyblog, Blog, Vlog, WordPress, Drupal, tout ça. Et nous nous félicitons de l'empowerment de l'amateur devenu le pro-âme que l'on retrouve partout aujourd'hui au vu du rythme de publication par des éditeurs de bouquins de youtubeurs. Nous marquons la rupture qui est l'horizontalité du web et donc l'accès à tous les contenus sous toutes les formes. Bref, le web disperse, ventile de la liberté et du pouvoir. Le web est une révolution, vive la révolution. Et ça, c'était pas mieux avant. Je peux m'arrêter là. Ça peut faire bien, en fait, comme chronique. Mais oui, je pourrais faire la chronique la plus courte de l'histoire de cette émission et personne n'y verrait rien à redire, tellement toutes ces affirmations qui, en 15 ans, ont fait irruption dans la vie de chacun semblent justes et cohérentes, tellement on vous l'a répété qu'Internet, c'était le bien, la croissance, l'accès, la connaissance et la livraison en une heure de tout produit que vous ne manquerez pas de repérer soldé dans une pub contextuelle que votre Facebook vous a balancé avant qu'un drone vienne balancer justement le même produit sur votre balcon. Mais non, je vais continuer et je vais vous parler de Catherine Hales et de son ouvrage « Lire et penser en milieu numérique ».
Mais qui est donc Catherine Hales ?
Catherine Hales est professeure de littérature à l'Université Duke en Caroline du Nord après avoir eu une première carrière de chercheuse en chimie. Et c'est une des chercheuses les plus respectées au niveau international sur la question de l'articulation entre savoir humain, intelligence artificielle et appareils de computation. Dans son dernier livre, « Lire et penser », elle nous invite à réfléchir à ce qu'on peut avoir en commun les humanités numériques, les déficits attentionnels, les conceptions chronologiques ou expérientielles du temps, les livres de code télégraphiques du début du XXe siècle, auxquels elle compare d'ailleurs la révolution Internet, nos perceptions de l'espace, l'infrastructure technique des bases de données, la fiction du requin mangeur de mémoire et une histoire d'amour hyper formaliste, tout ça, ça a des points communs qui sont dans le web. Et l'enjeu du livre, n'est donc pas de juger ce que sont nos prothèses numériques pour savoir si elles nous émancipent ou si elles nous libèrent. Elles sont généralement susceptibles de faire l'un et l'autre suivant les façons dont nous les agençons dans nos pratiques, mais de comprendre certaines des implications inhérentes à leur usage. Et c'est surtout un formidable et documenté contre-pied à l'article célèbre de Nicolas Carr, « Internet rend-il idiot ?»
Internet nous rendrait idiots donc.
Alors oui, tout semble montrer que nos médias numériques transforment non seulement nos cerveaux, avec la neuroplasticité, oui ça on l'avait vu, mais tout autant nos modes d'interaction avec les autres humains et avec les documents qu'ils nous envoient ou nous lèguent à travers l'espace et le temps. Il semble que les milieux numériques habituent notre système nerveux à un niveau de stimulation qui lui fait éprouver de la frustration lorsqu'il se trouve devant quelques centaines de pages imprimées plutôt que devant un écran d'image mobile. Sans récuser la réalité de tous ces problèmes que ces transformations peuvent poser, Catherine Hales s'ingénie à en dévoiler d'autres faces, moins décourageantes, faisant miroiter non seulement des raisons d'espérer, mais surtout des leviers d'action pour avoir prise sur ce que les jérémiades se contentent de déplorer. Elle se pose en médiatrice des humanités numériques et, pour elle, la médiation n'est localisable nulle part comme telle dans la liste des métiers. Pourtant, la médiation est partout, mais sous une forme diffuse, puisque nul ne peut être un bon collaborateur de quelque association ou quelque entreprise que ce soit s'il n'a pas acquis une certaine compétence de médiateur. En fait, pour elle, notre fonction sociale est d'apprendre à mieux parler les langues de la médiation, à l'heure où nos chaînes d'action sont de plus en plus longues, complexes, enchevêtrées et donc de plus en plus fragilisées par les difficultés. Et rien que pour cela, rien que pour le fait de pouvoir lire Catherine Hales, le monde n'était pas mieux avant.
La relève. Tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Alors les blogueurs sont-ils des médiateurs ?
Moi, je me considère un petit peu comme un passeur plus qu'un médiateur.
C'était Irénée et vous, Nicolas ?
Non, moi je suis complètement perdu dans cette difficulté numérique, ce sentiment de médiation, etc. Je sais pas, moi j'ai toujours écrit pour moi, et puis après il y a des gens qui lisent, là, voilà. Mais sur ce mélange d'hyperfatigue, d'attentionnel, d'incapacité de me concentrer, etc., parce que j'ai trop vécu longtemps au rythme du commentaire, hein, du blog, du retour, etc. Et en même temps, ce sentiment de puissance, d'empowerment, de curiosité, de découverte et cette richesse incroyable que j'ai à travers ça. Et donc j'ai un rapport très ambivalent, je pense, comme chacun d'entre nous, à cet univers-là qui me donne de la force, de la puissance, de la culture, de la joie, etc. Et en même temps qui me bouffe une énergie autant que je lui en prends.
Est-ce que vous avez pratiqué la déconnexion ? Parce que ça semble... Je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière, il y a eu toute une mode sur la déconnexion, le fait de se déconnecter.
Moi, je suis pour la connexion sans gluten.
Ah, c'est à celle-là.
C'est... Je vais continuer.
Voilà. Oui, non, moi je pratique des phases de déconnexion régulières et je prends le plaisir. En fait, j'ai une panne d'écriture depuis 2-3 ans, mais vraiment très très compliquée, etc. Voilà, qui est assez liée. Mais du coup, je suis allé sur d'autres processus de création. Je fais du mobilier, je dessine, etc., etc. Ce qui m'a fait beaucoup 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 de bien.
Voilà. Moi, de mon côté, j'essaie d'avoir un peu une hygiène des réseaux sociaux, disons. C'est difficile. Après, je rejoins Nicolas dans disons cette passion qui change de médium, qui passe du web à autre chose. Moi, je me suis aperçu en fait ce qui était intéressant en fait de bloguer, de rencontrer des gens, c'était de les rencontrer, accessoirement de les faire se rencontrer. C'est pour ça qu'on monte le mouton numérique et puis qu'on monte tous ces débats autour.
Justement, parlez-nous du mouton numérique. Il nous reste pas beaucoup de temps.
Ah, le mouton numérique, c'est un collectif de débats qu'on va lancer autour des questions sociétales qui sont suscitées par le numérique. On fera dialoguer penseurs et faiseurs autour de toutes les questions économiques, politiques, philosophiques que peuvent engendrer les humanités numériques, justement. Donc là,
vous le ferez en ligne ?
Non, on le fera en vrai, IRL, comme on dit, avec des vrais gens, dans des vraies salles. Donc ça sort très bientôt.
C'est ce que vous faites aussi un peu à Spin Tank, Nicolas ?
La société de Nicolas.
Oui, Spin Tank est une agence conseil, et puis on anime aussi un lieu qui s'appelle Le Tank, qui n'est pas très très loin de Radio Campus Paris, dans le 11e arrondissement. Qui aussi a une grosse programmation d'événements où on essaie de réfléchir aux questions numériques et d'être un acteur qui agit justement de manière consciente des problématiques de société soulevées par le numérique.
Et tous les deux, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'en fait, il faut intégrer dans l'éducation des enfants une certaine hygiène du numérique et une connaissance du numérique ?
Oui,
vous qui avez des enfants, ouais. Nicolas, qu'est-ce que vous leur dites ?
Irénée aussi.
Très 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 loin de la vision des entrepreneurs de la Silicon Valley qui mettraient leurs enfants loin des tablettes. Il faut éduquer et apprendre à dompter la bête. Donc ça veut dire effectivement intégrer le numérique dans l'éducation, ça me paraît évident, mais pas l'intégrer comme des outils qui par magie feraient que d'apprendre à utiliser un contexte, un savoir, d'aller utiliser cette méthode tierce et surtout de ne pas en faire non plus quelque chose d'exclusif. Évidemment, il faut lui donner de la place et le laisser à sa bonne place.
Irénée, oui.
J'ai rien à ajouter, je suis totalement d'accord avec ce qu'il m'a dit.
Pas de débat.
Donc le blog peut être un outil d'éducation un jour.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, on peut faire des choses fantastiques autour de tweet classes, autour de blogs d'établissements, autour de projets collectifs de publications, etc. On fabrique des pédagogies vraiment hyper intéressantes en mettant les enfants acteurs, en les faisant collaborer, etc. Il y a des choses super. Il ne faut pas non plus en faire un totem magique, etc. et unique. Et il faut surtout se garder d'imaginer qu'on va juste apprendre à des enfants de vivre et d'apprendre avec uniquement des livres sacralisés, etc. en 2017.
Et avec du code sacralisé, ça marche mieux ?
Le code fait partie des apprentissages dans les démarches programmatiques, oui, c'est sûrement intéressant. Enfin, moi, j'ai un peu bossé dessus, etc. Mais oui, je pense que c'est un des sujets. Après, rendre les gens autonomes dans le numérique, c'est pas uniquement du code.
Irénée, un mot ?
Oui, c'est pas uniquement du code. Enfin, y a beaucoup de débats là-dessus. C'est aussi des maths. Hein. On en a déjà parlé dans la dernière émission. Quant au tweet class et à tous les outils qu'on peut faire venir dans les écoles, vigilance, ce sont des outils aussi qui, justement, sont des outils de plateforme qui ont des intérêts à conserver. Il faut bien garder ça à l'esprit. Les utiliser, pourquoi pas, garder un esprit critique dessus, ça paraît évident. Le numérique, c'est un moyen, c'est pas une fin.
venez d'écouter La Relève, une émission présentée et proposée par Abine et Christophe. À la réalisation aujourd'hui, Jérôme Esseloukoum. Retrouvez-nous sur la page Facebook La Relève Radio Campus ou sur le site internet de Radio Campus. Bonne semaine à tous et à dans 167 heures.